explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Comme d'autres grands voyageurs avant lui, après avoir sillonné le monde, Titouan Lamassou a décidé, il y a quelque temps, de faire de la Polynésie son port d'attache. L'occasion pour le peintre-navigateur d'étoffer une galerie de portraits commencée il y a un peu plus de 20 ans. Au gré de ses escales dans les 5 archipels polynésiens, l'artiste a peint les visages des habitants des lagons et des forêts. Sa fille, Zoé Lamassou, journaliste et documentariste, l'a accompagné dans ses voyages pour faire émerger la parole de ses portraits. Pendant que le père, du bout de ses pinceaux, saisissait les regards, les attitudes et les âmes, la fille recueillait les mots, les espoirs et les colères des modèles. Hommes, femmes et enfants lui ont raconté leurs liens à la terre et à la mer, leurs croyances, mais aussi la façon dont la colonisation a bouleversé leur histoire collective et familiale. Ces récits, accompagnés de 200 dessins, peintures et croquis réalisés par Titouan Lamassou, sont présentés dans un très beau livre intitulé « Escale en Polynésie » paru hier aux éditions Au Vent des Îles. Cet après-midi, des Marquises à Tahiti, en passant par les îles Sous le Vent et l'archipel des Tuamotu, Titouan et Zoé Lamassou nous emmènent à la découverte des îles polynésiennes et à la rencontre de leurs habitants. Et en fin d'émission, nous serons en ligne avec un autre navigateur, Victor Rowe, qui s'apprête à larguer les amarres pour refaire le voyage qu'avait fait Charles Darwin en son temps à bord du Beagle. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission, préparée par Claire Tesser, est réalisée par Stéphanie Texier, avec à la technique Anne-Laure Cochet. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Watimete o no no o etu pe nui e ha amau ia e papua ia na moto manu e ua wakaua.
La chanson elle parle des trésors de mon île, comme l'île aux oiseaux. Le moto Epiti, Papaoa. Papaoa, c'est une pointe où on voit souvent les pêcheurs pêcher. Teana aussi, c'est une grotte où on dit c'est diabolique. Mais tout ça fait partie du patrimoine de mon île.
La voix de Vanessa qui chante la beauté de son île de Ouaouka qui appartient à l'archipel des Marquises. Bonjour Titouan et Zoé Lamassou.
Bonjour.
Bonjour.
Cette femme que nous entendons chanter fait partie des Polynésiens que vous avez rencontrés. Zoé Lamassou, vous avez recueilli ces mots et enregistré le chant que l'on entend. Titouan Lamassou, vous avez peint son portrait. Quels traits du visage de Vanessa vous reviennent en mémoire quand vous l'entendez chanter ?
C'est surtout, j'avais été séduit surtout par son chant, je dois dire. Et son portrait, je me rappelle qu'on l'avait brossé, si tu t'en souviens Zoé, sur une plage où il y avait énormément de vent. Donc je me rappelle du vent.
Décrivez-nous justement cette île de Ouaouka que chantait Vanessa avec votre œil de peintre et navigateur, Titouan Lamassou.
Je crois que l'île de Ouaouka est très belle. Malheureusement, on n'en a pas fait beaucoup le tour en bateau. Et c'est une des îles, toutes les îles de Polynésie, qui sont donc une galaxie composée de 120 planètes à peu près. Ouais. Mais c'est chacune de ces planètes diffère l'une de l'autre et possède un certain nombre de lunes. Parfois dizaines de lunes, parfois beaucoup plus, qu'on appelle les Motu. Et chacune de ces planètes est différente de l'autre. Alors Ouaouka est sublime, mais a subi une certaine dégradation due à l'importation relativement récente dans l'histoire de la Polynésie, et notamment les Marquises, l'importation des chevaux et des chèvres, etc., qui ont croqué, brouté toute la végétation de l'île. Et c'est une île qui évoque plus le nord de l'Écosse que les îles aux forêts tropicales qu'on trouve un peu plus au sud.
Ouais. On reviendra sur la diversité de ces îles. Zoé Lamassou, le but de ces voyages que vous avez effectués sur plusieurs années avec votre père, Titouan, était de donner la parole aux habitants de ces îles. Qu'est-ce que vous aviez envie de leur demander ?
Notre errance dans ces îles, elle était guidée par deux questions qui nous préoccupent, Titouan et moi. L'inquiétude qu'on a face au système Terre malade et notre intérêt pour un autre rapport aux êtres vivants, un autre rapport que celui occidental que nous connaissons, qui met la culture d'une part et d'un côté et la nature de l'autre. Et là, en Polynésie, on est allé chercher ce qui survit après 200, 300 ans de colonisation, d'un rapport aux êtres vivants, aux animaux, aux plantes, qui est océanien, qui est différent et qui a survécu et qui résiste encore. Alors avec un rapport presque généalogique aux animaux, par exemple, ou dans la cosmologie polynésienne, il y a certains animaux qui sont des entités protectrices. Et cette conception et cette manière de voir le monde, elle subsiste, elle est hybridée, réinventée, mais c'est ça que nous cherchions à comprendre. Et puis, dans un rapport plus contemporain des Polynésiens à des enjeux globaux comme le réchauffement climatique ou la déprédation de la biodiversité et ou la surpêche, on avait envie de connaître leur rapport à ces problèmes-là et leurs solutions.
Alors il faut dire que vous avez aussi un lien particulier l'un et l'autre avec ces îles. D'abord Titouan Lamazou. Je précise d'ailleurs que on vous connaît surtout encore comme navigateur avec ce succès en 1990, hein, lorsque vous avez remporté le premier Vendée Globe. Mais ça c'est une passade dans votre vie. Peintre, c'est vraiment votre métier. C'est-à-dire que dès l'âge de 11 ans, vous vouliez devenir artiste, vous avez fait l'école des beaux-arts, vous avez tout le temps voyagé et tout le temps avec des pinceaux et des crayons à la main. Et votre premier contact avec la Polynésie, c'était à bord du Penduik
d'Éric Tabarly.
De Tabarly.
C'est un clin d'œil à votre invité tout à l'heure, puisqu'on avait fait un long voyage, des très beaux voyages, et on était parti de Concarneau. Je me souviens, c'était en 77, donc il y a plus de 40 ans, et c'est ainsi avec Éric Tabarly que j'avais abordé pour la première fois l'océan Pacifique, l'Océanie, et abordé par les îles Marquises, comme c'est tradition, parce que 70 ans plus tôt, Jack London avait abordé exactement dans le même port de la même île des Marquises, les Marquises à bord de son Snark.
Quel souvenir vous gardez de ce premier contact avec la Polynésie, Titouan Lamazou ?
La Polynésie, comme d'autres zones du monde aussi, est chargée de poncifs, d'idées reçues. Et j'arrivais dans l'Éden, l'Éden, aux femmes lascives, aux horizons bleu turquoise, etc., qui avaient été dans nos esprits. Puis après, j'y suis, comme dans d'autres zones du monde, revenu. Et je continuerai à y aller, les choses se précisent, se mettent en forme, on arrive à comprendre petit à petit. Et je pense que le temps et la lenteur sont très importants dans ce type d'activité d'observation.
Pour vous, Zoé Lamazou, c'est un lien aussi très particulier que vous avez noué avec ces îles, puisque vous y avez passé les trois premières années de votre existence, en tout cas dans la toute petite enfance, trois années importantes où on se construit.
Oui, j'ai quasiment appris à parler en Polynésie. Ma mère m'a emmenée vivre en Polynésie entre mes 3 et 6 ans. Et j'y étais pas revenue depuis 30 ans. Donc c'était évidemment un retour plein d'émotions et puis de sens aussi, ouais. Parce que c'est une terre lointaine, ça l'a toujours été, mais à la fois familière. C'est-à-dire que dans ma famille maternelle, surtout, on convoque souvent des récits de Polynésie, puis il y a des mots de langue tahitienne qui émaillent notre langage familial.
On emploie des mots de polynésien dans la famille Lamazou.
Dans la famille maternelle, dans la famille de ma mère, la famille Huette.
D'accord. Bretons, alors par exemple, quel type de...
Par exemple, ma mère, et moi je fais pareil avec mon fils aujourd'hui, pour m'appeler avec ce terme, c'est « aremai », et ça veut dire « viens ouais. ». Ou bien on va préparer le ma, ou bien je suis fiu, le ma c'est le repas, et je suis fiu, c'est un terme pour dire qu'on est... qu'on a la flemme ou qu'on est fatigué de ouais. faire quelque chose, parce que ça c'est très tahitien.
Pour vous, la Polynésie, c'est le pays de l'enfance?
Oui, c'est un pays d'enfance, et peut-être c'est un pays qui n'existe pas, parce que mes souvenirs d'enfance sont en partie très très différents de la vérité de la Polynésie que j'ai eu grand plaisir à comprendre et à explorer au fil de ces trois années pendant lesquelles on a conçu ces entretiens, ouais. ces peintures.
On sent hein, dans votre ouvrage sur la Polynésie la volonté de mettre à distance justement les récits des premiers explorateurs que vous évoquiez, Titouan, des récits qui trouvent encore des échos dans les imaginaires aujourd'hui, comme cet extrait du carnet de bord de Louis-Antoine de Bougainville racontant son arrivée dans les archipels polynésiens en 1768. Un extrait, lu ici, avec amertume, et on le comprend, par un Tahitien, John Mairahi, professeur au conservatoire de Papeete.
À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant « Tayo !» qui veut dire « ami » et en nous donnant 1000 témoignages d'amitié. Les pirogues étaient remplies de femmes. La plupart de ces nymphes étaient nues. Les hommes, ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle. Je le demande, comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, 400 Français, jeunes, marins, et qui, depuis 6 mois, n'avaient point vu de femme. Aïe, 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 aïe. Attends. Comment on peut croire des idiots, je ne sais pas.
John Mairahi qui finit sa lecture par cette phrase hein, « Comment on peut croire des idioties pareilles ?» Et tout le problème est que des générations de Polynésiens y ont cru jusqu'à ce qu'ils réalisent que ces récits tenaient bien sûr de la légende. Comme vous l'a expliqué Chantal Spitz, qui est une écrivaine polynésienne et que vous avez rencontrée, Titouan et Zoé Lamazou.
Quand le premier Européen arrive ici, il nous tire dessus. Hein. Ça, on dit pas. Mais on va te dire, ah, les femmes, elles se sont jetées dans les couches. Attends, les marins à l'époque, ils ont quoi, 6 mois de navigation? Ils ont le scorbut. Ça veut dire qu'ils ont les gencives qui saignent. Ça veut dire qu'ils ont les dents qui se déchaussent. Ça veut dire, d'ailleurs, on les a appelés les pop-a. Les pop-a, ça veut dire les peaux brûlées. Ils ont la peau qui pèle. Ils ont des barbes jusque-là. Ils sentent mauvais parce qu'ils ne se baignent pas quand même. Voilà, c'est ça la réalité. Il voudrait que nous faire croire que nos grands-mères se sont précipitées dans leur couche alors qu'ils avaient des mecs là, bien beaux, qui sentaient bon, ils se baignaient 15 fois par jour, ils n'avaient pas de caries, il faut arrêter. Après qu'on ait donné des femmes, parce que de tout temps c'est la meilleure monnaie d'échange, et après qu'il y a eu des histoires d'amour, évidemment, mais moi jamais on me fera croire que mes grands-mères se sont prises. Non, c'est pas possible. Il suffit d'avoir du bon sens. Donc déjà là, tu te dis, attends, ils nous ont raconté des conneries pendant toutes ces... Et nous, on a cru.
Chantal Spitz, que vous avez interrogé, Zoé Lamazou, vous êtes radieuse en l'écoutant. C'est vrai que c'est réjouissant de l'écouter. C'est une personnalité hein, de la Polynésie.
Oui, c'est la première auteure tahitienne. Et c'est bien sûr une personnalité incontournable. Mmh. Chantal Spitz, avec aussi une autre écrivaine qui est Tita Wapeu. Et ce sont des femmes fortes qui, pour moi, sont des modèles parce qu'elles se sont réappropriées cette parole qu'on avait confisquée pendant longtemps aux Polynésiens pour raconter leur histoire. Et elles le font avec humour, ouais. Ça, ce qui ne gâche rien, et avec beaucoup de conviction. Et elle dénonce encore les réalités coloniales qui continuent de structurer ces sociétés.
Mmh. Ces poursuites sont toujours présentes. Voilà, et effectivement, Bougainville, par exemple, la nouvelle citaire qu'il a écrite, c'est quand même la relation d'un passage de 3 jours à Tahiti, c'est pas beaucoup quand même. Mmh. Et surtout qu'il a même pas débarqué du bateau. Et il se trouve que Wally s'était passé juste avant. Et il avait fait parler la poudre et les mousquets. Et les Polynésiens, qui sont certainement pas idiots, ils se sont dit, un nouveau découvreur, enfin un nouveau popa qui arrive avec ses bateaux. Ils avaient bien compris que les femmes étaient une bonne monnaie d'échange, comme dit Chantal. Ils ont mis en avant des jeunes filles, toutes nues, pour calmer les gens et pour éviter de se prendre des boulets de canon, tout simplement. Et après, il est parti de là, une sorte d'une mythologie qui a été, d'une certaine façon aussi, transmise et relayée par Paul Gauguin, par même Victor Ségalène.
Ouais. Ouais, tout en le dénonçant, Ségalène, tout en le dénonçant, finalement, il tombe dans le cliché.
Oui, même Diderot, je crois, avait fait un livre qui critiquait vraiment la nouvelle citère de Bougainville. Et il dit, comparé aux ecclésiastiques, à la pruderie hypocrite de nos civilisations, là-bas, c'est la fornication générale et libre. Et c'est-à-dire qu'il a fait, en critiquant les propos de Diderot, il en a lui aussi rajouté une couche, et qui est aujourd'hui extrêmement difficile à décaper.
Toute votre démarche, justement, était de décaper et d'aller à la rencontre des Polynésiens pour dépasser les images d'Épinal et les idées reçues. Vous avez pris le temps de les écouter, d'en faire le portrait. Vous allez, Titouan et Zoé Lamazou, nous emmener à la découverte de la Polynésie, de ses habitants et de leur histoire. Le temps d'un bivouac cet après-midi sur France Inter.
Song is ta utama, which means my child. We ask a question to ourselves. What are we going to tell our children if we fail to protect our planet?
Ya paremmo te moana no u. Ya marerete mata i. Ya paremmo te moana no u. Ya marerete mata i. Ya haya ta ue preu ya ue ta utama. I mara mara ma ura. I ata ata ohina. I pura pura te feti a.
C'était Small Island Big Song et Vaiteani qui chantait Tau Tama dans le temps d'un bivouac. Un chant marquisien enregistré par vos soins, Zoé Lamazou, lors d'une de vos escales en Polynésie avec Titouan Lamazou. Ces chants et les danses qui les accompagnent sont des rescapés. Ils ont failli ne pas survivre au choc engendré par l'arrivée des Occidentaux. D'abord parce qu'à l'arrivée des Européens, on le sait, mais on n'a peut-être pas conscience à quel point la démographie de toutes les îles polynésiennes s'est effondrée. Mais en moins d'un siècle, à la fin du 18e, début 19e, les estimations sont absolument catastrophiques.
Oui, j'ai pas les chiffres en tête, mais Titouan, toi, tu as peut-être...
Dans le récit de Melville en 1842, qui était l'année d'ailleurs de l'annexion des Marquises par les Français, on estimait la population à 80 000 à 100 000 habitants aux Marquises. Et quelques années plus tard, il y avait plus que 2 000 Marquisiens.
De 100 000 à 2 000 Marquisiens.
Oui, 100 000, peut-être, c'était sans doute difficile de faire des
Des comptages aussi précis.
Oui, aussi précis, mais enfin, c'était 80 à 100 000. C'était passé à 2000 avec un peuple qui était en train de mourir de tuberculose, de syphilis. D'autres maladies. Et ça a été en très très peu de temps.
Simone Grand, qui est une des personnes que nous avons interviewées, qui est biologiste, qui est anthropologue aussi, tahitienne, parle d'une île de Tahiti étant devenue une île morgue. Elle évoque ce choc microbien comme un des facteurs qui fait que, bah oui, cette culture qui se transmettait par l'oralité a disparu peu à peu, en tout cas s'est dilué, mais a résisté malgré tout.
Oui, alors elle a résisté, il y a eu en fait deux périodes, hein, parce que il y a d'abord eu les religieux qui sont arrivés et, avec un discours demandant qu'on efface toutes ces danses, tous ces rites, ces tatouages, toutes ces coutumes. Et puis quelques décennies plus tard, les discours des hommes d'église ont changé du tout au tout, ce qui a engendré des incompréhensions entre les générations, comme vous l'a raconté Ben de l'île de Wapu au Marquis.
Les premiers religieux ont tout interdit et même détruit. Et ceux qui sont venus après, ils ont réparé, je dirais, le mal qui a été fait au début. Grâce à l'évêque, il nous a dit, bon, maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez une culture formidable. Ah bon ? On nous a dit, c'est démoniaque. Non, 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 non. Et vous êtes un peuple très, très intelligent, très, très fort. Parce que vous avez vécu avant que les Européens viennent vous rendre visite. Vous étiez des milliers. Maintenant, votre devoir, il y a encore des vieilles et des vieux dans certaines îles. Allez près d'eux, leur demander s'ils se rappellent encore de quelques vieilles danses, chants, etc. Moi, j'ai été voir mes parents. Ils me disent, quoi ? Tu vas réveiller le démon, le diable ? Qui est-ce qui vous a donné cette idée de... T'as pas honte, t'as été à l'école pour ça. Mais tout ça a été banni par l'Église et tout. On était devant un mur d'incompréhension. Vous voyez, le choc qu'il y a eu, ce sont les religieux qui ont détruit leur culture et ce sont encore les religieux qui ouvrent la porte à l'interdiction. Ah, mon Dieu! Mais ça a été très, très dur. Et c'est comme ça que nous avons découvert la culture marquisienne.
C'est terrible ce qu'ont vécu ces familles. On leur a enseigné la détestation de leur culture, de ce qu'ils étaient, Zoé Lamazou.
Oui, il y avait jusqu'au nom, aux prénoms qui ont été interdits, les prénoms tahitiens. Alors ça, c'est assez commun en fait dans toutes les situations de colonisation où le nom de la culture du vainqueur est imposé. Mais il y a aussi une chose qui est très paradoxale, c'est que dans le sillage de ces soi-disant découvreurs et aussi parmi les ecclésiastiques, il y a eu un travail de recension de la culture qui était en train d'être effacée par ce contact avec les Européens, les prosélytes et les colons.
C'est-à-dire que les ethnologues ont finalement fait, en même temps qu'ils l'effaçaient, la mémoire écrite de ces cultures qui étaient plutôt des traditions orales.
Oui, un peu comme le père Laval... au Gambier, qui a écrit deux ouvrages. Le père Laval, lui, quand Ben, un type succulent, nous parlait de cette histoire, et quand il disait « les religieux ont ouvert la porte des interdits », en fait, il parle surtout d'un religieux, ouais, qui est Monseigneur Le Cléache, qui garde encore tous les marquisiens qu'on continue à l'aimer depuis son décès. C'est le grand-oncle de notre navigateur célèbre.
Armel
Le Cléache.
Ah oui.
Et donc, c'était un homme particulièrement éclairé. En revanche, vous avez dans un autre archipel le père Laval. Le père Laval qui, lui, était plus proche d'Opus Dei. Lui, c'était, c'était radical. Mais le père Laval a écrit un ouvrage qui est fort utile aujourd'hui pour les ethnologues, anthropologues, historiens, etc., parce qu'il a décrit la société des Gambiers extrêmement précisément avant son évangélisation absolument radicale. Et dans cette terre, c'était un schizophrène. Il avait passé sa vie à relever tous les détails de la vie traditionnelle des gens, et le reste de sa vie à les effacer entièrement.
Là, voilà. C'était dans les Gambiers, donc un des cinq archipels.
Voilà, des cinq très éloignés des Marquises, de 2000 kilomètres. Et aujourd'hui, quand même, aux Gambiers, comme aux Marquises un petit peu plus tôt, il y a eu un renouveau. Maintenant, toute la population essaye de retrouver sa culture. Et dans tous ces archipels, quand même, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que la langue native n'a pas disparu. On leur a enseigné à l'école pendant un certain temps que leurs ancêtres étaient les Gaulois, mais maintenant on enseigne le marquisien aux Marquises, le tahitien à Tahiti. Et donc ce sont des choses qui n'ont pas été perdues, mais c'était à deux doigts.
Ouais. Et cette renaissance des cultures a créé au sein des familles un certain malaise, là encore, entre les générations. Voici ce que vous a dit à ce sujet Titawapeu, qui est tahitienne.
Je ne sais pas si mes frères et sœurs ont vécu ça, mais moi j'ai l'impression de vivre dans un monde qui n'était pas le mien. J'étais tahitienne, sentais vraiment tahitienne, mais avec des apports que j'acceptais pas forcément. Et sans savoir pourquoi. Hein. Enfin, j'ai vécu dans une famille où on était fiers d'avoir du sang blanc. Et c'est à la langue qu'après j'ai commencé à mettre des mots, à comprendre. Les ancêtres de ma mère, par exemple, ont fait souche en Australie avant d'arriver ici. Alors moi, je m'étais fait un film aussi. Où ils ont tué des aborigènes, machin et compagnie. J'ai vécu mon adolescence comme ça. Très tôt, le sentiment du colonialisme mondial, enfin à grande échelle, je l'ai intégré, quoi. Et cette espèce d'injustice. Dès le départ, il y avait une espèce de malaise dans le passé. Le passé, comment on te le racontait. Oui. Voilà. Sachant que toi-même, voilà, t'as la peau noire, t'es complètement noire, mais t'as des ancêtres, t'as des noms de famille carrément étrangers, quoi.
Titawapeu, une des Polynésiennes que vous avez interviewées, vous avez rencontré ce questionnement sur l'identité, sur les origines chez beaucoup des Polynésiens que vous avez rencontrés, Zoé Lamazou.
Les gens le font plus ou moins en fonction de l'importance que ça a pour eux. Il y a une des personnes qu'on a rencontrées qui dit oui, je crois que parmi mes ancêtres, il y avait l'anglais du coin, mais bon. J'en fais pas grand cas et ma grand-mère avait les yeux verts. Mais c'est tout. Et pour d'autres personnes, c'est comme Chantal Spitz ou Titawapeu ou Léon Lichley, c'est une généalogie à interroger et à garder en conscience. Oui.
Ça a été difficile d'obtenir ces témoignages, de les faire parler sur des sujets finalement très, très intimes, parfois douloureux pour certains.
Mais ça n'a pas été si difficile que ça. On a quand même une grande. On a rencontré beaucoup de Polynésiens et Polynésiennes. L'approche qui est la nôtre, qui est celle du portrait. D'abord, Titouan arrive et on explique notre tandem. Rend les choses assez faciles. Il y a une véritable rencontre qui se met en place avec les personnes que nous interviewons.
Titouan Lamazou, évidemment, avant les entretiens, ça commence par cette séance de portrait qui peut prendre parfois une demi-journée. C'est une entrée en matière douce, c'est un échange de regards. Vous créez un lien au moment où vous peignez les portraits des personnes que vous rencontrez.
Là comme ailleurs dans le monde, en grande majorité du monde, le dessin, avec un simple crayon, un papier, un savoir-faire, est une façon d'établir une sorte de complicité douce entre des personnes qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais été dessinées de leur vie, et qui constituent mon premier public, parce que moi, mon premier public, celui que je veux satisfaire, c'est pas moi, c'est mon modèle. Mmh. Je veux qu'il se trouve bien, et que ses voisins, le reconnaissent sur mes dessins, donc ça établit une complicité. Et après, on peut passer à une discussion ou poser des questions qui peuvent être ressenties comme intrusives un petit peu. Mais le dessin adoucit les choses, toujours.
Une complicité dans le temps aussi, Titouan Lamazou, puisque certains modèles, vous les avez dessinés, en tout cas il y a une femme dans le livre que vous avez dessinée à 20 ans d'intervalle. Vous l'aviez rencontrée il y a 20 ans, elle était toute jeune femme, vous en aviez fait le portrait, et 20 ans après, vous...
Et d'ailleurs, j'avais été très bien accueilli, c'est-à-dire que j'étais arrivé à Wapu, aux Marquises, j'avais dessiné une jeune femme qui était enceinte à l'époque. Et elle est venue avec une jeune fille, parce que ça fait 15 ans, quoi, quand même, et elle m'a dit, voilà, elle est là.
Du coup, vous avez peint la jeune fille.
J'ai fait le portrait de la maman et de la jeune fille qui était plus dans le ventre. Voilà. Et pour revenir sur ces généalogies, c'est-à-dire d'ailleurs quand je faisais mon travail sur les femmes du monde avec des portraits dans les archipels, Mais j'avais pris ça comme axe, c'est-à-dire que je leur demandais d'où elles venaient. Et c'est étrange. C'était un mélange qui leur a permis d'ailleurs de ne pas disparaître complètement, ouais, ces peuples. Et il y a en grande majorité, quand vraiment vous êtes né en Polynésie, mais d'une maman tahitienne et d'un père Popa, par exemple, ou l'inverse, ben, personne ne dit qu'il est Popa. Ils disent qu'ils sont tahitiens. Ouais. Ils sont polynésiens.
Alors que leurs aïeux faisaient l'inverse, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à blanchir la généalogie, exactement, eux finalement la déblanchissent, voilà, et mettent de côté les blancs qu'il y a dans l'arbre généalogique. Nous poursuivons notre voyage à travers les archipels polynésiens à la rencontre de leurs habitants, avec vous, Titouan et Zoé Lamazou, dans un instant.
The bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show. To pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over.
C'était Arlo Parks qui chantait Too Good sur France Inter.
France Inter, le temps d'un bivouac.
Ici, c'était un lieu de cérémonie. Des pirogues venaient des îles de Bura, de Huahine, de Maupiti, de Tahiti. Et c'était ici qu'ils se retrouvaient. C'était le centre. C'est pour ça qu'on dit ici, c'est le centre du monde polynésien. Et là, en face, c'est la passe sacrée. C'est le passage entre l'océan et le lagon. C'est-à-dire que les pirogues arrivent. Il faut une passe, il faut une pointe, il faut un cap. Ici, on est en plein dans sur un cap. Quand tu me dis d'où tu viens, tu dois me dire où est ta montagne, qui est ta montagne, qui est ton cap, qui est ta passe. Rien qu'en citant les noms de montagne, de lagon, de la pointe, on sait d'où tu viens. Voilà. C'est la façon de se présenter.
Sur un site sacré de l'île de Raiatea avec Tilly Smith, un habitant de l'île au micro de Stéphane Combe, île qui appartient aux îles sous le vent de l'archipel de la Société, un des 5 archipels de la Polynésie française, hein, c'est vraiment toute une galaxie, on le disait, Titouan Lamazou. Vous êtes sensible à ces noms qui désignent les moindres contours de ces îles. Ils figurent d'ailleurs sur certaines de vos, oui, représentations.
C'était un travail d'une fédération qui s'appelle Motuaka, qui est née en 77, lors de mon premier passage, enfin, je n'avais pas conscience à l'époque, et qui ont fait un travail remarquable avec l'Académie des Marquises. Il y a une Académie des Marquises pour défendre, pour conservé la langue marquisienne et qui se sont employés un travail conséquent à retrouver tous les noms d'origine qui avaient été effacés par à la fois les colons et les religieux pendant ces 200 ou 300 ans, parce que chaque mot est important dans la mesure où il raconte une histoire. C'est une anecdote ou c'est une relation avec les dieux. C'était une religion polythéiste, évidemment, il y avait un dieu pour chaque chose.
D'où venaient les premiers peuples qui sont venus s'installer sur ces îles au milieu du Pacifique? À quelle période ça a eu lieu?
Je crois que c'est daté au XIIe siècle à peu près, ou un petit peu avant. Ça fait quelques centaines d'années, en tout cas, avant l'arrivée de Bougainville, Cook et autres Wallis. Ouais. Et ce qu'il y a de remarquable, vraiment remarquable, ouais, dans ce peuple, surtout pour quelqu'un qui a fait un peu de bateau,
ouais,
c'est leur mode de... C'est eux qui ont découvert toutes les îles.
Et
on dit qu'ils sont arrivés aux Marquises et après ont peuplé Hawaï, l'île de Pâques, jusqu'à la Nouvelle-Zélande, etc. Sur des bateaux que je considère comme les navires les plus subtils que le cerveau de l'homme a pu imaginer depuis l'histoire du temps, ce qui s'appelle les pirogues doubles,
ouais,
qui sont des bateaux souples. C'est ce qui s'appelle un multicoque chez nous,
ouais,
ou un catamaran. Mais c'est les pirogues doubles, c'est cousu, il n'y a pas de métal, tout est végétal. Et ils ont transporté familles, cochons, des plantes aussi, pour peupler toutes les îles du Pacifique. Mmh. Et ce qu'il y avait de remarquable, c'est qu'ils se naviguaient aux étoiles.
Ouais. Alors pour utiliser ces étoiles, justement, puisque toutes les étoiles évidemment se lèvent à l'est et apparaissent toujours dans le même ordre, au même endroit, ce sont ces précieux repères qu'ils ont utilisés. Et ça, il y a un anthropologue que vous aimez beaucoup, Jean-Claude Théry Hérault-Oïtérahi, qui vous l'a expliqué. Il est décédé depuis cette interview.
On a un texte qui s'appelle « La naissance des corps célestes ». C'est un poème en tahitien. Quand on récite ce poème-là, on voit se dérouler le mouvement des étoiles. Des étoiles apparaissent, deux étoiles. On lit ces deux étoiles-là, et ces deux étoiles-là, on va dire, s'accouplent pour donner naissance à une troisième étoile qui suit derrière, qui va se marier avec une autre étoile, qui donne naissance à une autre étoile qui suit encore derrière. Et lorsqu'on a ce chant-là dans la tête, et quand c'est le chanter, on a la carte du ciel et le mouvement des corps célestes.
Titouan Lamazou, c'est très beau, c'est cette navigation,
oui,
en suivant le chemin des étoiles.
Et avec une tradition d'oralité, on faisait des poèmes, des chants pour apprendre par cœur le nom des étoiles et le chemin à suivre. Et ce qu'il y avait de remarquable aussi pour leur appartenance, enfin leur attachement au vivant, se traduisait aussi dans ces modes de navigation qui, à l'approche d'une île, il s'en apercevait, par exemple, il passait d'une navigation nocturne aux étoiles à une navigation diurne aux oiseaux. C'est très beau, c'est-à-dire qu'il connaissait, c'est quand même aussi des ornithologues avisés, et il savait que s'il voyait un paille-en-queue ou une frégate du Pacifique dans le ciel, eh bien, il fallait la suivre parce que ces oiseaux marins vont pêcher très loin de leur île, jusqu'à 150 kilomètres de leur île, mais ils reviennent. Mmh. Et donc, ils suivaient les oiseaux. Autre méthode d'approche, quand ils approchaient surtout des atolls des Tuamotu, ça c'est très joli, parce que les atolls sont des îles qui culminent à 2 mètres parfois, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Ça a provoqué énormément de naufrages dans l'histoire de la navigation et de la colonie d'ailleurs. Et pour repérer ces atolls, qui sont des puits de lumière, parce que c'est des bleus turquoises au milieu, ceinturés par une barrière de corail, au milieu d'un océan qui est cobalt ou outre-mer. Et il y a des petits nuages, des cumulus de beau temps qui est partout sous les tropiques. Les nuages qui surplombent les atolls sont bleus, turquoises. Et c'est très étonnant quand on les voit la première fois. Et ils voyaient pas l'île, mais ils voyaient des nuages bleus turquoises, ils disaient, tiens, ben c'est là-bas. Voilà. Puis le ciel compte énormément, c'est-à-dire que, comme disait Jean-Claude, chaque étoile est un dieu et une déesse. Par exemple, c'est très joli, avec le Maui, le dieu des dieux suprêmes, créateur du monde, avait pris le scorpion qui est une constellation qui a une forme d'anneau. Ça s'appelle l'hameçon de Maui. Mmh. C'est avec cet hameçon que Maui a pêché toutes les îles du Pacifique. Et qui les a remontés avec le scorpion, dans toute cette cosmologie est très importante dans la mémoire.
Zoé Lamazou, d'ailleurs, il y a le premier chapitre de, parce que ces témoignages que vous avez recueillis, vous les avez organisés en 5 chapitres, et le premier chapitre se nomme l'invisible, c'est-à-dire toutes ces croyances, tout finalement ce qui n'est pas matériel, ce qu'ils se sont transmis, et malgré tout ce qu'ils ont vécu, hein, on l'a compris dans cette émission, eh bien, une bonne part de l'invisible a perduré et s'est transmis.
Oui, c'est pas évident d'ailleurs à comprendre et à recueillir, parce que aujourd'hui il y a quand même une culture chrétienne qui est prégnante, et donc il n'est pas facile de dire que on croit que son grand-père est un requin. Mais il se trouve que si de plus en plus les Polynésiens et Polynésiennes que nous avons rencontrés vont se souvenir de ces entités protectrices qui étaient des animaux et de ces ancêtres animaux ou plantes d'ailleurs, et on parlait volontiers. Je me souviens d'une jeune fille, pendant toute l'interview, son petit garçon de 2 ans jouait assis dans le lagon, et des requins pointe noire passaient, assez inoffensifs, et puis hors micro, elle lui dit « Ah ben, peut-être ton grand-père va passer ». Et alors c'était pas pour moi qu'elle disait ça, ouais. Et je crois qu'elle était vraiment sincère, et elle était toute imprégnée de ces récits de ses ancêtres, et visiblement elle avait envie de transmettre cette vision du monde. Alors bien sûr c'est pas le cas de tous les Polynésiens.
Ce qui ne les empêche pas de participer au chœur des chants de l'église tous les dimanches.
Voilà.
Leur culture et leurs croyances se sont métissées,
hybridées, réinventées, et aujourd'hui il y a des méthodes de gestion du peuplement du lagon, de la ressource, peut-on dire, des méthodes très ancestrales comme le rawi, qui est une méthode de mise en jachère du lagon qui existait avant le contact avec les Européens, qui est aujourd'hui réutilisée dans un domaine de protection de l'environnement ou de renouvellement de la ressource halieutique. Et donc ça, c'est dans beaucoup d'îles en Polynésie, ce système de rawi est remis en place. Par exemple, c'est une des autres manières d'être au monde, réactualisé.
Voilà, et ces jachères étaient très pragmatiques, comme toutes ces religions dans ces régions, parce que c'était le roi ou le chef de l'île qui était en contact direct avec la parole des dieux qui descendait du ciel, n'est-ce pas, et qui disait ce que j'appelle des jachères divines, c'est-à-dire qu'il avait entendu dire qu'il fallait pendant 6 mois on ne touche pas à cet endroit-là, que ce soit à terre ou en mer, et ce qui fait que c'est une conscience de vivre quand même si cet océan d'île est très vaste, les îles elles-mêmes sont pas très petites, et c'était assez peuplé, donc il fallait faire très attention à conserver son garde-manger.
Alors on n'idéalise pas non plus ces sociétés du passé, hein, qui étaient quand même aussi rudes et hiérarchiques.
Elles étaient composées d'hommes et de femmes, comme nous.
Merci Titouan et Zoé Lamazou. Je rappelle le titre de votre livre, Escale en Polynésie, aux éditions Au Vent des Îles. Restez avec nous, je voudrais vous présenter Victor Rowe, un navigateur qui s'apprête à larguer les amarres pour refaire avec son bateau le périple que Charles Darwin avait fait en son temps à bord du Beagle. Il va nous raconter ça dans un instant.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours
n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
C'était Bernard Lavillier qui chantait Le cœur du monde dans le temps d'un bivouac. La programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Ces deux mois passés à Plymouth furent les plus misérables de mon existence. J'étais chagriné à l'idée de quitter famille et amis pour une si longue période, et le temps me semblait indiciblement lugubre. J'étais aussi perturbé par des palpitations et des douleurs cardiaques, et j'étais convaincu d'avoir une maladie de cœur. Je ne consultais pas car je craignais d'être déclaré inapte au voyage et j'étais résolu à partir, coûte que coûte.
Le jeune Charles Darwin, sous la pluie, attendant le départ du Beagle, le navire s'apprêtait en 1831 à larguer les amarres du port de Plymouth pour un voyage qui allait durer 5 ans et donner à Darwin matière à observation et à réflexion. C'est durant ce voyage que germera dans son esprit la théorie de l'évolution. Bonjour Victor Rowe.
Bonjour Daniel.
190 ans après Darwin, vous vous apprêtez à prendre la mer pour refaire son voyage. Vous êtes dans votre bateau actuellement, on entend grincer le plancher, le capitaine Darwin, qui partira demain, si tout se passe bien, du port de Concarneau. On entendait les états d'âme du jeune Darwin avant le départ à l'instant. Vous, dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Alors, écoutez, je trouve ça absolument génial que vous ayez passé cet extrait, cette lecture de Charles Darwin, parce qu'il y a des points de similitude entre son départ et le mien. Aujourd'hui, à Concarneau, c'est la tempête également, le vent souffle très fort, il pleut énormément, et pourtant, je suis également résolu à partir, donc le départ aura lieu demain, je me sens prêt, donc demain, le temps sera normalement plus clément, ouais. et on part avec un bateau qui est vraiment prêt, qui est vraiment sûr. On part également avec un équipage, donc on sera 4 en tout, de marins expérimentés. Donc j'aborde cette traversée du golfe avec beaucoup de sérénité et d'excitation.
Quel est le but de votre voyage exactement, Victor ?
Alors le but du voyage, donc moi je suis réalisateur de films documentaires de profession, et ça va être de recréer ce voyage mythique pour interroger à chaque escale les scientifiques sur la manière dont la biodiversité a évolué et faire en quelque sorte un comparatif historique entre aujourd'hui et il y a 190 ans, aux prémices de la révolution industrielle et avant qu'on commence à impacter de manière globale les écosystèmes, de manière à sensibiliser sur l'impact de l'homme sur la nature qui nous entoure, et aussi de mettre en lumière des initiatives de conservation citoyenne qui font en sorte qu'on construise collectivement un monde plus durable.
Et vous partez pour 4 ans à bord de ce bateau. Vous serez 4 à bord, mais les équipages changeront, les personnes se relayeront. À quoi ressemble votre bateau à bord duquel vous êtes là actuellement, le capitaine Darwin ?
Absolument. Tout à fait. Alors déjà, pour commencer, je dirais que c'est le plus beau bateau de toute la Bretagne,
évidemment,
et ce, en toute objectivité. c'est un bateau qui fait 13 mètres de long, qui est gréé en cotre, c'est-à-dire qu'il a un mât. Et c'est un bateau qui est assez lourd, hein, qui fait 13 tonnes, et qui est vraiment équipé pour partir loin, longtemps, avec une grande autonomie. Donc on va avoir par exemple des panneaux photovoltaïques ou une éolienne pour la création d'électricité, des grandes cuves d'eau et beaucoup d'espace de stockage pour mettre de la nourriture, quelques bouteilles de vin je pense, et puis aussi tout le matériel de tournage qu'on va utiliser pour recueillir le témoignage des scientifiques sur le terrain.
Donnez-nous le parcours dans les grandes lignes, Victor Rowe, par où allez-vous passer ?
Alors, dans les grandes lignes, c'est une sorte de Vendée Globe à l'envers, en fait. On va passer par les trois caps, mais en allant vers l'ouest. Donc, on va d'abord traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique du Sud, faire le tour de l'Amérique du Sud en passant par le Cap Horn. Ensuite, ce sera la traversée du Pacifique en passant par Tahiti, le Cap Lewin au sud de l'Australie, ensuite la traversée de l'Indien, le Cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique, et puis on va remonter ensuite pour retourner en Angleterre comme l'avait fait Darwin il y a 190 ans.
Ouais, et donnez-nous quelques exemples d'étapes emblématiques que vous attendez avec impatience.
Alors, moi je les attends toutes avec une grande impatience, mais je pense que le travail qu'on va pouvoir faire au Galapagos notamment m'attire beaucoup parce que c'est un peu l'escale mythique de Darwin, là où il a eu les premières intuitions sur la théorie de l'évolution, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Lui avait beaucoup travaillé sur les pinsons des Galapagos, alors ce qu'il pensait être des pinsons, qui en fait sont des géospies, qui sont des animaux qui se sont différenciés d'île en île. Et ces animaux continuent de fasciner les chercheurs aujourd'hui, parce que ils auraient une capacité à s'adapter extrêmement rapidement aux bouleversements climatiques, et peut-être que cette résilience, cette capacité, on pourrait s'en inspirer aussi pour essayer de trouver des solutions aux bouleversements qu'on connaît aujourd'hui.
Il y a aussi, je crois, de prévu une plongée avec des manchots royaux du côté des îles Malouines. Ça aussi, ça doit être
exactement
un programme que vous attendez avec impatience.
Ah bah ouais, complètement. Alors ça, c'est vraiment génial. Donc là, on sera dans le Grand Sud. Donc faut imaginer des grosses tempêtes, à faire pâlir les tempêtes bretonnes, je le crains. Et au Malouine, il y a effectivement cette grande colonie de manchots royaux qui se situe sur Volunteer Point et qui est une colonie qui est mise en danger par le réchauffement climatique parce que les zones de prédation en fait des manchots s'éloignent de plus en plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plonger au pied de cette colonie. Donc on sera en circuit ouvert, en plongée boutée, de manière à pouvoir capter des images de ces manchots qui plongent pour se nourrir. Donc ça va être exceptionnel aussi.
Titouan Lamazou, qu'est-ce que vous inspire ce voyage ?
Les dernières paroles
de Victor,
qui dit que ça fait pas lire les tempêtes bretonnes. Moi, je me souviens, il y a longtemps, pas 190 ans, mais d'un voyage, long voyage, pas aussi long que le vôtre, mais qui a duré 2 ans, à bord du bateau d'Éric Tabarly, et nous étions partis pour faire le tour du monde, en passant par le Cap Horn, etc. Et les pires conditions climatiques, les pires conditions de mer qu'on a rencontrées, c'était les 2 premières nuits dans le golfe de Gascogne et la dernière nuit dans la Manche au retour.
Ah oui, donc c'est peut-être ce qui vous attend demain, en fait, le pire du voyage, Victor. Je ne sais pas si c'est pour vous rassurer.
Bien, malheureusement, c'est fort possible, en effet. Ouais. Alors non, c'est sûr que non. Le golfe de Gascogne, de toute façon, c'est aussi les marins du Vendée Globe, qui en général, au retour aussi, vivent parfois les pires journées, les pires nuits en mer dans cette zone-là. Donc je croise les doigts pour que nous, on passe un peu à travers les gouttes, mais ça semble assez mal engagé quand même.
Victor Rowe, sauf événement météorologique imprévu, demain, dimanche à 15h, vous quitterez le port de Concarneau. Tous ceux qui veulent assister au départ sont les bienvenus, bien sûr. Des bateaux aussi seront là pour vous accompagner et vous suivre. Nous allons mettre un lien vers votre site avec toutes les informations pour assister au départ. Et si vous en êtes d'accord, Victor, nous prendrons de temps en temps de vos nouvelles par téléphone pour que vous nous racontiez ce que vous vivez.
Je serais ravi de continuer à partager l'aventure avec les auditeurs de France Inter. Donc merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui.
Alors bon vent et à très bientôt, Victor Rowe.
À bientôt, au revoir.
Et merci Titouan et Zoé Lamazou d'être passés par notre bivouac.
Merci à toi.
Et merci à vous surtout de nous avoir invités.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Pour écouter cette émission et les précédents épisodes, il y a les podcasts avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, vous connaissez le chemin, la page Facebook du temps Temps d'un bivouac ou la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.